Merci encore. Je remercie les organisateurs de cette occasion d'échange sur un sujet qui en effet me passionne, qui est celui de la transmission. Je considère que j'ai eu finalement beaucoup de chance de pouvoir me retrouver à la fin de mes études médicales dans ce qui était alors le premier service, peut-être même européen, dédié spécialement à la psychiatrie de l'adolescent et des jeunes adultes, 13-25 ans, donc on pouvait les suivre dans de bonnes conditions. Et j'ai pu le faire donc, en y restant après mon internat par un concours de circonstances où d'ailleurs 68 n'est pas étranger puisqu'il y a eu des postes de créés à ce moment-là d'universitaires. J'y suis 40 ans, j'en suis devenu le chef de service. Et donc on avait un service avec des moyens importants, pour près de 40 places d'hospitalisation, puis 30 places après d'hôpital de jour, à peu près 2500 adolescents en file active par an sur 40 ans. Voilà, ça fait quand même pas mal de monde, une grosse équipe et une possibilité, c'est ça surtout pour moi qui a été important, d'avoir des contacts avec beaucoup, beaucoup d'anciens patients. Je n'ai jamais suivi quelqu'un plus de 10 ans, mais il se trouve que j'ai des patients avec qui j'ai des contacts, je dirais, de convivialité, sinon d'amitié, que j'avais comme patient en psychotique en 68, quand j'étais dans le service. Donc, ce contact avec toute une vie, pour un certain nombre de patients, a été pour moi un apport déterminant. Et j'ai aussi, on a fait des études de suivi aussi, qui ont aidé à cela, c'est-à-dire savoir ce qu'ils sont devenus. Alors là, il y a quelque chose, évidemment, certains sont morts par suicide, d'autres qui l'auraient pu ne l'ont pas été. Et qu'est-ce qui fait, voilà, qu'ils sont passés pour moi à ces deux positions centrales de la vie, de la destructivité, c'est-à-dire la fermeture sur soi, parfois jusqu'à la mort, et la créativité, ce qui est au cœur même de la vie, c'est-à-dire une co-construction avec les autres. Bon. Et qu'est-ce qui fait que, comme ça, ils ont pu passer de l'un à l'autre? Et je considère donc que j'ai eu beaucoup de chance, et j'ai une très grande gratitude envers ceux qui, avec qui on peut garder des contacts, ou qui me donnent des nouvelles. Certains, je ne les ai plus jamais revus, mais j'ai des lettres périodiques, des SMS, des avis de naissance d'enfants, 20 ans, 25 ans après. Pourquoi ? Voilà. Qu'est-ce qui se passe qui fasse que c'est important pour eux de donner signe et signe de vie ? Bon. Et je pense que là, on est au cœur vraiment du vivant et qu'au fond, pour moi, je me dis, et je vais essayer d'en témoigner, que c'est une leçon de vie et une leçon de philosophie incomparable. Voilà. Et moi-même qui étais tenté par la philosophie, j'ai failli la faire et puis bon, au dernier moment, j'ai reculé à l'idée de me retrouver interne venant de province dans un grand lycée parisien. Et je pense que j'ai eu raison, parce que je ne suis pas sûr que je l'aurais bien toléré. Mais enfin, on ne le saura jamais. Mais c'est ce qui montre aussi la vie, c'est-à-dire ces choses, ces rencontres. Et puis il y a eu mai 68, il y a eu que je sois dans le service, que le patron, M. Valvigny, m'apprécie, que je reste là, que je vois tout ça. Vous voyez, c'est un facteur qui n'est pas du totalement au hasard. Il y avait des éléments prédéterminants chez moi, des intérêts, des facteurs, oui, de rencontres. Mais il y a eu ces rencontres. Et j'ai une formation de neuropsychiatre, puisqu'à l'époque, on n'était pas séparés, neuropsychiatrie, surtout une formation psychanalytique importante, mais la chance aussi de faire beaucoup de psychodrame, c'est-à-dire ne pas être prisonnier du modèle de la cure type, qui s'applique quand même surtout à des gens qui vont plutôt bien. Et c'est comme ça, et en même temps, c'est une maïeutique à nul autre pareil, mais faire aussi du psychodrame, c'est-à-dire cette mise en scène comme cela, ce jeu des possibles qui est au fondement, à mon avis, du travail psychique, ce jeu des possibles qu'on met en scène avec notamment des personnes comme Evelyne Questimbert et autres, ou Serge Lebovici. Donc, et tout ça m'a permis, à mon avis, d'avoir une expérience, et je me dis que sur le plan conceptuel, on a parlé des philosophes tout à l'heure, mais moi, je n'ai jamais vu qu'un philosophe ait convaincu un autre philosophe que le verre était plutôt à moitié plein ou à moitié vide. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a très vite tendance à s'auto-confirmer parce que ce n'est pas une question de vérité de ce qu'est le verre. Bon. Il est aussi bien à moitié plein qu'à moitié vide. Seulement, la façon dont on le voit, et c'est ça, à mon avis, que m'a apporté ma pratique, c'est la façon de voir la vie, et la façon de voir l'autre, ce qui l'anime, contribue à cette co-création qu'est le vivant, c'est-à-dire le verre, eh bien, on va contribuer à le remplir, on peut contribuer à le vider, en ayant l'impression qu'on le vide plus facilement qu'on le remplit d'ailleurs. Et puis on peut passer de l'un à l'autre. Et c'est ça aussi. Comment des patients ont pu être comme ça dans une telle destructivité folle, et des années après, je pense à une anorexique devenue médecin d'ailleurs, qui avait eu 33 hospitalisations, 10 ans de suivi, et me disant au bout de ces 10 ans,
Je ne suis plus anorexique. Je ne comprends pas comment on peut être anorexique. Je le voudrais, je ne le pourrais pas. Et elle, je l'ai revue quand elle avait des filles qui ont 14-15 ans. Elle s'inquiétait pour leur, parce qu'elle chipotait au niveau des alimentations, mais elles ne sont pas devenues anorexiques pour autant. Bon. D'un grand schizophrène me disant, qui après 10 ans d'errance, de difficultés, me disant en 2008, quand il partait à la retraite en même temps que moi, qui était suivi encore aussi par un collègue, il me disant, mais finalement, monsieur, jamais, j'ai eu une belle vie. Puis je l'ai revu il y a un mois, là, parce qu'il m'a demandé si on ne pouvait pas aller prendre un verre au Rostand, près du Luxembourg, là, parce qu'il était, il jouait de la fanfare là-bas, et il est devenu peintre, maintenant il est à la retraite, il a été peint des décors de l'opéra, et il est maintenant artiste peintre, avec des particularités sur le plan émotionnel, affectif, quelquefois de sa présentation, mais voilà, il vit, il est dans la créativité. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre, comme ça? Et là, j'ai l'impression de trouver une réponse dans la psychiatrie grâce à ces patients qui en ont été, comment dire, je dirais, les expérimentateurs involontaires et grâce aussi aux découvertes des neurosciences et aussi de la psychanalyse, ce que ça nous a appris. Tout ça ne s'oppose pas, ça se complète. Mais les neurosciences nous ont apporté énormément de choses et en particulier ces psychotropes qui ont transformé totalement la vie de patients. Et quand même, ça nous interroge que la même personne, quel que soit son niveau intellectuel, puisse à un moment donné dire que la vie est extraordinaire, être dans un état d'euphorie, perdre tout repère, se mettre à dépenser un argent fou et dans une euphorie complète qui est d'ailleurs suspecte par son intensité et où on sent que derrière se cache en fait un désarroi et un risque d'être perdu. Et puis quelques mois après, être dans la mélancolie en pensant il faut que je tue femme et enfant parce que le monde est épouvantable. Vous voyez bien d'ailleurs que devient le monde, il y a de quoi être effrayé. Oui, c'est vrai qu'il y a de quoi être effrayé, mais enfin, ce n'est pas pour ça qu'il va se suicider. C'est parce qu'intérieurement, c'est sa chimie cérébrale fait que ça perturbe complètement ses capacités de jugement. Et si ça se trouve, 6 mois plus tard, il va dire mais comment j'ai pu faire de tels épisodes parce qu'il est maintenant sous un régulateur de l'humeur ou qu'il a eu des électrochocs. Alors quand même, bon, alors je veux bien que le psychique, tout ça, c'est important, mais bon, qu'est-ce qui est à la base comme cela de ces changements possibles? Eh bien, il me semble que finalement, je dirais, qu'est-ce qui fait que ces patients, à un moment donné, ont cessé d'être dans la destructivité, dans l'attaque contre soi-même? Car là aussi, il y a quelque chose, je le dis tout de suite, de commun, à mon avis, à tout ce qu'on appelle les troubles psychiatriques, hein, ou les troubles du comportement, c'est que tous, ils nous amputent d'une partie de nos potentialités dans un des 3 domaines qui est nécessaire à notre développement. Quels sont ces domaines? Prendre soin de son corps, développer ses potentialités, pas seulement scolaires, et développer la sociabilité. Chacun d'entre nous, quand on va mal, on va se fermer dans au moins un des domaines. Pourquoi se fermer? Mais ça nous interroge. Pourquoi se fermer? Mais parce que ça protège. C'est comme quand on se sent envahi, c'est tout à fait d'actualité, et bien on a besoin de se protéger du danger. Alors en soi, c'est une attitude adaptative. Bon. C'est une conduite adaptative, qui n'est pas choisie, qui s'impose, dont la forme dépend beaucoup à la fois de notre tempérament et de notre culture, mais qu'on ne choisit pas. Je n'ai jamais vu un patient choisir son trouble psychiatrique. D'ailleurs, essayez de faire une petite maladie mentale, voilà, comme ça, là, et on pourrait faire, essayez, quoi. Si je vous demande de penser à Confucius, à je ne sais pas quoi, vous le ferez, parce que, bon, vous dites, oui, on peut penser à ceci, on peut, ça, c'est ça, le psychique. Vous pouvez penser à n'importe quoi. Mais aller faire un trouble mental, vous n'y arriverez pas. Hein? Même les phobies administratives, ce n'est pas si évident que ça. Vous voyez, c'est plus une phobie que tout le monde le croit. On a rigolé, mais c'est vrai que c'est le genre de bêtises qu'on fait, pas parce qu'on les choisit, parce qu'on ne veut pas voir, qu'on est sous contrainte, que ça nous fait suer, qu'on a assez de travail et que ceci, on verra bien, ma femme s'en occupera, ou la secrétaire, et puis voilà. Et on fait une connerie qui vous revient en plein nez. On n'a pas choisi. Moi, je n'ai jamais vu un patient choisir ses troubles. Oui, on va me dire, oui, mon anorexie, c'est à moi, c'est mon corps. Sauf que ce n'est pas choisi. Et que quand vous n'êtes plus en état émotionnel de le faire, vous ne le faites plus. Et seulement après, ce qu'on fait nous fait. C'est-à-dire que le fait d'être anorexique fait qu'on se cramponne de plus en plus. Et plus on se sent mal, et bien plus on va se cramponner à ce qui tient, comme si vous étiez là à une chute, vous cramponniez au balcon, on vous dit lâche, lâche, et puis ben oui, lâche, lâche, sauf que j'ai peur. Alors il me semble que finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que toute notre vie se joue pour nous tous? Et je pense que ces troubles dits psychiatriques sont des des miroirs grossissants de ce que nous sommes. Et d'ailleurs, je le dis aussi, puisque je suis censé parler de l'adolescence, je ne l'oublie pas, c'est que l'adolescence n'est pas une maladie quand même, on pourrait le croire maintenant dans la façon dont on en parle. Je crois que l'adolescence est simplement la réponse de la société à un phénomène physiologique qui est la puberté, qu'on trouve chez les animaux supérieurs organisés en bande, c'est-à-dire que l'arrivée des jeunes à l'état adulte, ce n'est pas qu'une partie de plaisir, il va falloir se partager le territoire et les objets sexuels. C'est pareil pour l'être humain. C'est-à-dire, c'est un moment charnière qui va se durer sur plusieurs années de crise, non pas de crise au sens de violence nécessaire, de crise au sens qu'on ne peut plus être après comme avant. Ou si exactement on est comme avant, c'est que ça va mal. Ce n'est pas la même chose d'être après la puberté exactement comme en prépubère. Donc, il va falloir, là, au moment de la puberté, au fond, reprendre en main, devenir acteur de ce qu'on a choisi en rien. Et c'est pour ça, je crois que d'ailleurs que les ados sont des philosophes en herbe, nous posent des questions de philosophie, mais enfin on me demande qui tu es, quelle identité, construis-toi, sois autonome, mais j'ai rien choisi. Non seulement j'ai pas choisi de naître, ce qui est déjà un problème, mais j'ai même pas choisi mon tempérament, ma personne, mon sexe, on n'a rien choisi. Voilà ce dont on s'aperçoit. Alors après, on a tendance à l'oublier quand on devient adulte, parce qu'on croit qu'en tant qu'adulte, on a choisi ce qu'on est devenu, on n'a pas plus choisi. Bon. Personne d'entre vous n'a choisi son tempérament. Alors par contre, je le dis tout de suite pour ne pas jeter le trouble, c'est que quand même, il y a une chose qu'on peut choisir, et ça c'est le seul être vivant, l'être humain, qui peut le faire sur Terre. Oui, on a une possibilité de choix de faire ceci plutôt que cela. Sauf, qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment un choix et non pas une réponse purement émotionnelle ou à une contrainte émotionnelle ou à une contrainte éducative? On a déjà posé la question ce matin. Et là, il y a quelque chose de fondamental. Quand est-ce que c'est vraiment un choix? En tout cas, pour l'adolescent, il ne choisit pas d'être adolescent. Et il y arrive avec un corps, avec un bagage intellectuel, avec une culture qui n'a rien choisi. Rien, même pas la longueur de son nez, ni ses oreilles en éventail. Tout ça, il le subit. Et on lui demande de reprendre ça en main. Ben ouais, c'est un peu. Alors voyez bien que ça va dépendre de quoi. C'est pas tant quelle identité. Alors aussi, on aime beaucoup les concepts. Il va construire son identité. Non, je crois que c'est son identité, elle reposera avant tout sur des états émotionnels. Est-ce qu'il a confiance? Alors qu'on préfère parler d'estime de soi, mais c'est déjà un peu élaboré. Basiquement, est-ce qu'il a confiance en lui? Et en général, c'est en miroir du fait qu'il ait confiance dans les autres. Ça se co-construit. La vie, c'est une co-construction ensemble. Et il va falloir qu'il reprenne à son compte. Alors, s'il est dans un état, dans une ambiance familiale, où il se sent en harmonie, en confiance, avec ce qu'il faut de conflits, de différences, il a des modèles un peu différents. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un père, d'avoir une mère, d'avoir des différences. Alors, de faire de l'absolu, de la différence sexuée comme une condition de ne pas tomber dans la psychose, ça c'est autre chose. Vous voyez combien on a sans arrêt, d'un point de vue purement conceptuel, une volonté d'emprise qui caractérise l'être humain et tous les êtres vivants, au fond. Ce qui caractérise aussi la vie, c'est le besoin d'être acteur. Et on verra tout à l'heure qu'il y a une homologie, je crois, du vivant, depuis la plante jusqu'à nous, qui est que la vie, elle est faite pour se perpétrer, pour se transmettre, et que la vie, elle impose une maîtrise, une réponse active à toute menace sur le territoire. Voilà. Et en même temps, un jeu de ce qu'on appelle les circuits appétitifs, les circuits aversifs. Donc l'adolescent, ce n'est pas tant son identité comme cela qu'il va construire, que qu'est-ce qu'il va faire qu'il se sent en confiance, qu'il se sent en harmonie, qu'il a des envies, qu'il n'a pas trop peur. Ouais. Et là, c'est un modèle, évidemment, expérimental, parce qu'il va être soumis à des pressions très fortes, un changement de ce corps qui lui échappe. Au moment où il commence, si vous voulez, à avoir déjà une certaine maîtrise de sa pensée, l'âge de raison, où il a une certaine maîtrise de son corps, mais il s'aperçoit que les transformations pubertaires, il n'y peut rien, que tout ça lui échappe, que finalement il se rend compte qu'il est pris dans des envies totalement contradictoires. C'est ça qui fait la difficulté de l'adolescence et au-delà de nous-mêmes. Ce n'est pas la haine, l'amour, c'est qu'il y a de la haine et de l'amour partout. C'est que nous sommes profondément ambivalents et que nous sommes tous, au niveau de l'humeur, des bipolaires en puissance. L'humeur, elle est fondamentalement bipolaire. Et en plus, on ne la choisit pas. Personne d'entre vous n'a dit ce matin, tiens, quelle humeur tu vas être aujourd'hui là, moi, je me verrais bien un peu déprimé en fin de matinée ou impulsif quand on recommence l'après-midi, nous rase encore un autodiscours. Bon, je foutrai une baffe au premier qui me dérange. Non, on fera ce qu'on peut avec ce qu'on est. Voyez. Mais on peut déjà contrôler en partie cela. C'est énorme, c'est une chance formidable, c'est là une liberté potentielle. Sauf que les conditions d'exercice de cette liberté et les maladies mentales sont là pour nous le montrer, mais sont l'objet de contraintes. Et je pense que les maladies mentales, qu'on appelle mentales, qui sont si peu mentales, on y reviendra si on a le temps, mais surtout émotionnelles, eh bien on ne les choisit pas. Et tous ces troubles mentaux, on dit mentaux, ces troubles du comportement, ils ont une fonction de maîtrise. Et quand vous demandez au sujet, eh bien oui, finalement, ils ne l'ont pas choisi, mais quelquefois, ils pensent qu'ils l'ont choisi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins mal. Si vous prenez, essayez de le faire, si vous envoyez une fille, c'est parce que c'est surtout des filles qui se scarifient, faites l'expérience. Hein ? Pourquoi tu te scarifies ? Ben, je ne sais pas, c'est moi, c'est pas moi, c'est plus fort que moi, mais ça me soulage. Alors moi, j'ai des bandes de vidéos, d'enregistrement, on peut voir, je dis, écoutez, moi j'ai bon cœur, passez-moi votre bras, vous allez voir, je vais vous scarifier, vous soulager tout de suite, donnez-moi votre scalpel, et gratuitement même, si vous voulez. Alors ça ne manque pas, ils vont dire, non mais ça ne va pas la tête, quoi, vous plaisantez, vous foutez de moi, ou de, hein, l'une l'autre jour me disait, d'ailleurs, en Suisse, où je vais assez régulièrement faire des présentations vidéo de jeunes qu'on me présente, et une très belle fille très scarifiée, je lui dis, mais si c'est moi qui vous faisais ça, elle a ce cri du cœur, et bien, mais ça me ferait mal. Je dis, voyez, vous avez compris quelque chose de fondamental dans la vie. C'est que si c'est vous qui êtes l'acteur de votre propre souffrance, eh bien, ça vous fait même pas mal. Vous sentez la douleur, mais c'est secondaire. Mais si moi, vous êtes passive, et moi, je dis, toi, ma petite, tu vas voir, je vais te scarifier. Alors là, c'est le hurlement, c'est affreux, c'est abominable, parce que vous n'en êtes pas l'acteur. Et ça, c'est fondamental. Et je crois que ça nous permet de comprendre pourquoi l'être humain, hein, par la conscience qu'il a de lui-même, va avoir le sentiment que quand il va avoir besoin justement d'être acteur, et que malheureusement, la seule chose sur laquelle nous avons toujours un pouvoir, c'est la destructivité. Là, je le dis là, en passant, vous le savez tous en même temps. Tout ce qui est de la vie, on ne peut pas le maîtriser. Aucun d'entre vous n'a choisi de venir au monde, que je sache. Enfin, c'est peu probable qu'il y ait des grands écarts. Bon, vous n'avez pas choisi, vous avez donc, comme je le disais tout à l'heure, rien choisi de ce que vous êtes. Donc, si vous voulez, si vous avez vous reproduire, ben vous êtes obligé de faire un détour par quelqu'un, en gros, même si on trouve des moyens un peu compliqués, mais il faut passer par l'autre. On ne peut pas se reproduire tout seul et on ne peut pas être heureux très longtemps tout seul. Ou parce qu'on a une tête très présente avec des expériences, des souvenirs, mais pas très longtemps. Et dès que vous êtes bien, excusez-moi aussi de le dire en début d'après-midi, mais ça va se terminer. Ouais. Tout moment de bonheur, il se termine. Alors pour vous tous qui êtes là très équilibrés, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que vous avez confiance. Et ça va revenir. Peut-être. C'est pas certain. En tant qu'assureur, je peux pas vous le garantir. J'aimerais, mais je peux pas vous garantir. Par contre, si vous me dites, moi j'attends rien de la vie, monsieur. La vie c'est de la merde et je m'en fous. Et je me trempe dedans et je vous emmerde aussi. Et je ne ferai rien et rien ne m'intéresse. Alors là, je vous signe un contrat, ça vous prouve ça. Vous réussirez toute votre vie comme ça. Ça c'est sûr. Si vous ne passez pas l'examen, vous êtes sûr du résultat. Si vous le passez, vous dépendez de l'examinateur. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que là, l'enfant, très tôt, prend conscience ? C'est que dès qu'il veut s'opposer, dès qu'il veut casser, dès qu'il veut détruire, dès qu'il veut être contre, il a besoin de personne. Il a du pouvoir. Mais à quel prix et pour quel résultat ? Moi, je crois qu'il y a quand même une clé du comportement humain formidable et très prosaïque. C'est très bête, pas qu'on soit bête, mais c'est pas une question d'intelligence. C'est une question d'éprouver, de ressenti. Et que l'homme est le seul être vivant, c'est probablement ça le côté diabolique. C'est à pouvoir effectivement se servir de la destructivité comme une arme absolue, y compris dans le suicide. Et on y reviendra, c'est pour ça que je pense que le suicide est pour moi plus un acte de vie qu'un acte de mort, mais qui aboutit malheureusement à la mort. C'est comment on se dupe à ce sentiment de puissance, d'avoir un pouvoir, d'être acteur de notre vie, qui est un sentiment purement émotionnel à partir d'une erreur d'information émotionnelle. Mais tu es actif, tu es là, tu es honteux, tu es malheureux, tu as été humilié, mais t'inquiète pas, tu peux prendre ta revanche, tu vas faire quelque chose, tu as pu faire quelque chose. Alors quelque chose d'actif, ah ben je dépends des autres, au risque de la déception. Et il y aura sûrement des moments de déception où je me détruis, et là, ben j'ai un pouvoir immédiat. Et voyez comment je pense que toute la négativité de cette vie, toute cette ambiance, ou grande partie aussi de notre monde intellectuel, à la courant du XXe siècle en France, et une partie aussi des médias, où il y a une espèce de, course un peu maniaque, je crois, de fuite de l'angoisse dans une merdification, excusez du mot, de la vie. Vous voyez. Bon, en merdifiant la vie, vous êtes sûr de ne pas vous prenez pas de risque. C'est le côté petit bourgeois. Vous voyez, je fais de la provocation. Hein, là. Bon, de dire, c'est, si vous dites, voilà, oh rien à attendre, tu fais confiance, mon pauvre ami, nous, et tu attends quelque chose, mais il n'y a rien à attendre. Et comme ça, je préviens les déceptions. Mais à quel prix? C'est-à-dire, quelle image je vais donner de la vie? Quelle image on donne de la vie à nos enfants en voyant toujours, en prédisant toujours des choses négatives? Là, il y a une prévention. Et je n'aurai peut-être pas le temps d'y revenir, mais il me semble, si vous voulez, que la prévention, elle est globale. Il faut avoir, là, en tête, le risque suicidaire, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Mais il ne faut pas faire une prévention où on voit les 20 catastrophes qui menacent nos enfants, de trop manger, de devenir boulimique, pas assez, d'être anorexique, de prendre de l'alcool, de prendre machin, d'avoir des idées dépressives. Non, quelle est la meilleure prévention? Eh bien, la vie, c'est une chance. Ça vaut la peine de la vivre. Je crois qu'on se retrouverait avec mon collègue Terra pour dire, oui, la vie, mais voilà, mais c'est un choix de valeur. Et bien sûr qu'il y aura de la souffrance à la mesure des plaisirs. Mais cette vie, alors ce qu'on pourrait se dire quand même, et ce qu'on pourrait dire, on ne sait rien sur le pourquoi de la vie, on n'est probablement pas prêt de le savoir. Donc, gardez vos croyances, tous ceux qui en avaient. C'est bien, ça aide à vivre, on l'a dit. Pourquoi ça aide à vivre, la croyance? Parce que c'est aussi la croyance, et ce que nous montrent aussi les maladies, quand on croit à quelque chose, là ça va être dur, la croyance, c'est l'équivalent d'un acte. C'est pareil, si vous croyez, c'est comme si vous agissiez. Donc c'est une force de mouvement considérable. Donc on peut garder nos croyances, hein, mais savoir en même temps que c'est ce qu'on en fait qui va compter. Bon, et que la vie, qu'est-ce qu'elle est? Et là je voudrais très rapidement... Je pense que c'est important dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, de cette homomorphie du vivant. C'est que quand on pense, on commence à comprendre comment la vie est née. Que la vie, elle est née à partir de la chimie, quelles que soient les causes. Encore, à partir de la chimie, carbone, hydrogène, comme ça, dans une certaine atmosphère. Qu'est-ce qui fait la vie? La vie se caractérise par l'individuation. La première cellule vivante, c'est une frontière. À l'intérieur, il y a les briques, c'est-à-dire l'ADN, dont le but, ce n'est pas la mort. C'est la transmission. La vie, c'est la transmission. La vie, elle n'est pas créée pour la mort. C'est une invention humaine, la mort. Parce que nous, nous sommes conscients qu'on va disparaître. Mais la vie, elle se transmet. Mais le matériel s'use, il est prévu qu'il se remplace. Et c'est tout le vivant, c'est construit comme ça, dans le remplacement successif des cellules, après des individus, des trucs comme ça, se complexifiant, les mutations génétiques. Et puis, une membrane. Et une membrane où la vie n'est possible que s'il y a un échange permanent entre les circuits appétitifs, c'est-à-dire je vais prendre dehors ce qui est nécessaire, les circuits aversifs, je vais rejeter le mauvais. La vie, c'est les shaddocks, on passe son temps à pomper. Nous croyons là, bien... Non, nous avons je ne sais pas combien de millions d'échanges en cet instant-là. Vous envoyez à la seconde à peu près 1,5 milliard à 2 milliards de SMS par votre cerveau. Tout ça, ça bouillonne. On ne le voit pas, mais ça bouillonne. Bon, la vie, c'est un échange permanent, on ne l'arrête pas. Bon. Et cet échange... Si on voit très bien qu'il est soumis à une paradoxe, et ça rejoint toutes les discussions qu'on a eues ce matin, du caractère fondamentalement paradoxal, mais pas au sens que l'entendent les systémiques, c'est que la logique du vivant n'est pas une logique binaire, c'est bon ou c'est mauvais, c'est plusieurs niveaux de logique. Et un exemple, me semble, c'est que si, dans cette cellule unique, si la membrane est trop faible, eh bien, à la moindre secousse, elle éclate, la cellule meurt. Si la membrane se renforce, elle ne peut plus échanger, elle meurt. Et nous sommes tout le temps comme ça, dans une tension. Entre si nous échangeons trop, on arrive à ne plus, et on le voit bien, notre identité disparaît, on devient... Et de l'autre côté, si on s'enferme, eh bien on n'a plus la fécondation par les échanges. Donc on est tout le temps, et il n'y aura jamais d'arrêt. Alors c'est là où il faut faire attention dans la prévention, de voir qu'on ne peut pas figer les choses, on ne peut pas, c'est pas la prévention comme d'un virus ou d'une bactérie, la prévention de ces troubles. Tous ces troubles, je crois quels qu'ils soient, on peut les voir comme une conduite adaptative, une réponse agie à une menace, ce que j'appellerais l'homéostasie psychique, avec un terme très vulgaire, celui d'homéostasie, pour montrer que c'est quelque chose de physiologique, de pas psychologique. Et que dès que nous ne sommes pas faits pour être tout le temps dans le plaisir, hein, ce n'est pas le principe de plaisir qui guide la vie, mais nous sommes faits pour ne pas rester longtemps dans le malaise. Et dès qu'on est dans le malaise, et c'est ce que nous montre l'adolescence, quel qu'il soit ce malaise, quelle que soit sa forme d'expression, il va falloir répondre activement pour ne pas rester. Et c'est là que va apparaître toute la panoplie des troubles négatifs dont je parlais tout à l'heure, parce qu'ils nous redonnent un sentiment de maîtrise, parce qu'on ne dépend plus des autres, parce que du coup, ça nous rassure sur le moment. Mais la maladie, ce n'est pas de se replier, la maladie, c'est de s'enfermer. Et si ça devient le moyen habituel, et c'est là, à mon avis, qu'il y a le problème pathologique normal, c'est que ce n'est pas même de faire une tentative de suicide, ce n'est pas forcément une pathologie, c'est pathogène. Parce que ça passe par le fait de nous abîmer. Et si ça devient le moyen habituel de régler ce surcroît de tension, on est dans une pathologie dépressive ou autre qui fait qu'on a trouvé ce moyen, on s'y cramponne. Mais alors, et là je pense que la conception qu'on en a n'est pas neutre, le problème c'est que ce n'est pas fou. Non, ce n'est pas fou parce que du côté du patient, il y a une logique émotionnelle. Il est moins mal en faisant son trouble. Et après, même s'il est de plus en plus mal en étant dans son trouble, comme il n'a plus que ça, il semble croire maîtriser, mais s'y accroche de plus en plus jusqu'à en crever. Mais ce n'est pas un choix, c'est une contrainte. Et c'est là où c'est important de voir que derrière tout ça, il y a des facteurs biologiques, en effet, et des facteurs, ils vont ensemble, des facteurs de régulation de la confiance avec les autres. Il y a tout ça en même temps. C'est les deux fils qu'il faut tenir toujours. Il n'y en a pas qu'un. Et on n'a pas opposé les médicaments à la psychothérapie ou au lien. Il faut voir quel est l'outil. Il va nous permettre de quoi ? De remettre un petit peu de jeu. Parce que le psychique, c'est la capacité de jouer, c'est l'activité réflexive. Le psychique, ce n'est pas d'avoir des représentations, ce n'est pas d'avoir un langage. Les animaux en ont, ils sont conscients de leurs émotions. Mais ils ne peuvent pas, ce n'est pas qu'une question de langage, ils ne peuvent pas se regarder ayant une émotion et pouvant en avoir une autre. C'est ça qui a permis le développement quantitatif du lobe frontal qui a abouti, à mon avis, à une rupture qualitative de notre développement en nous permettant de nous regarder. Et à partir, et je terminerai après ça, à partir du moment où nous nous regardons, qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien, on va voir qu'on pourrait toujours avoir plus. C'est-à-dire l'addiction, ce n'est pas la société moderne qui l'a créée. Nous sommes foncièrement des êtres addictifs parce qu'on sait qu'on n'aura jamais tout, qu'on pourrait toujours avoir plus et qu'on va mourir et qu'on va tout perdre, ce qui n'est pas tout à fait neutre. Deux, nous savons que nous sommes des êtres de paradoxe, c'est-à-dire que pour être nous, nous devons à la fois nous nourrir des autres et pour être nous, être différents. Avec cette fausse contradiction, c'est comment être différent si je ne fais qu'écouter papa et maman ? Eh bien oui, c'est en me nourrissant des autres, c'est là qu'il y a des logiques différentes. C'est des paradoxes, ce n'est pas des contradictions, c'est qu'il faut les deux niveaux. Il faut recevoir pour en faire quelque chose qui est à soi. Le troisième élément, la troisième conséquence, il me semble, qui s'impose, c'est que, du fait de cette conscience réflexive, nous sommes des dérégulateurs des instincts, pour le meilleur et donc pour le pire. Oui, l'homme est capable de préférer se tuer que de trahir ses copains, de ne pas pratiquer la sexualité pour des raisons morales, peu importe, mais s'il peut se restreindre, ben, il peut l'utiliser sans limite, enfin, ça va ensemble. C'est évident que si on peut contenir ses instincts, on peut... Alors quand on nous dit c'est un animal pour avoir sa férocité, mais jamais les animaux n'ont la férocité, ils n'ont aucun mérite d'ailleurs, ce n'est pas la peine de donner tout votre argent à ses pères, enfin, bon. Donc ils n'ont aucun mérite, ces animaux-là, ils n'ont pas le choix. Alors, de temps en temps, ils s'amusent un peu sadiquement, mais je n'ai jamais vu des génocides de souris commandés par les chats, mais ça c'est propre à l'être humain, ça ils peuvent le faire, voyez. Là il y a quelque chose qui nous est spécifique, mais c'est basique, il me semble que c'est très basique tout ça. Oui, nous pouvons faire le bien, et parce qu'on peut faire le bien, eh bien, on peut faire le mal. Et quand est-ce qu'on va faire le mal ? Eh bien, en général, quand on a peur. Parce que les choses se conduisent en miroir. Et il faut reprendre ce que disait, qui vient de mourir, le fonctionnement en miroir de René Girard. Bon, et on le voit dans les guerres civiles et partout. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on se sent sans valeur, quand on se sent décevant, et la déception, c'est un cancer des émotions. Hein, parce que la déception, eh bien, c'est un... elle se nourrit de la force des attentes. Si vous attendez peu, vous n'avez pas de chance d'être déçu, c'est au moins l'avantage. Donc ceux qui sont déçus, et ça va se retrouver derrière le côté bipolaire, c'est-à-dire que ceux qui se suicident, il faut voir aussi, je dirais, le côté positif, c'est de dire, mais quand même, quelle force tu as pour faire ça, et quelle souffrance. Mais si tu as des souffrances, c'est que tu as des envies. Si tu n'avais rien, s'il n'y avait pas d'attente, tu ne souffrirais pas. Et ça, on oublie d'en parler. Pas pour nier la souffrance, tu dis tu souffres, mais à la mesure de la force de tes attentes, et parce que l'autre t'a déçu ou parce que le monde t'a déçu, cette force d'attente que tu as, tu la détruirais toi maintenant parce que tu es déçu, parce que la vie ne répond pas, parce que tu ne te sens plus le maître, et que c'est d'une tristesse épouvantable. Et finalement, tous ces troubles adaptatifs, le problème, c'est qu'ils ne sont pas justes. C'est pas, c'est assez, finalement, assez, c'est pas fou, pour l'être humain, quand il se sent impuissant, d'avoir toujours la possibilité de se détruire. Et la destruction, ça va d'aller faire la gueule dans sa chambre, s'enfermer, ne plus parler, jusqu'à s'abîmer, jusqu'à se suicider. Toute cette déclinaison de la destructivité, elle est à la mesure de l'attente. Et c'est ça que m'ont prouvé ces patients. Et là, je termine, parce que je sens que je vais tomber foudroyé, donc si ça avait été possible, en citant que ce qui est pour moi important, ça a été justement le témoignage de certains patients. C'est-à-dire, ce qui m'a le plus apporté sur la compréhension de ça, c'est de revoir ces anciens patients et de voir à quel point, oui, l'activité réflexive, ils peuvent la retrouver, quel qu'il soit schizophrène. Il n'est pas hors du champ du symbolique pour la vie. Comment on a été inventé des choses comme ça en se prenant pour Dieu ? Non, personne n'est hors du champ du symbolique définitivement. Mais on l'est tous quand on est sous l'emprise de nos émotions, qui que nous soyons. Voilà. Méfions-nous de nos émotions. Et sans ces émotions, nous ne serions pas des êtres vivants, on serait un ordinateur. Donc il y a besoin des deux. Alors ces témoignages, c'est-à-dire de voir comment un patient, une fois qu'il est soigné, qu'il a repris confiance, comment il retrouve des capacités de jeu, c'est-à-dire de regard sur lui-même, d'activité réflexive, ce qui ne veut pas dire qu'il reste plus sensible, qu'il ne reste pas plus sensible que la moyenne d'entre nous, qu'il est vite tenté par ce repli. Mais il apprend à connaître ça, à savoir, comme me disait ce patient psychotique, ce que je ne supporte pas, c'est l'imprévu. Parce que devant l'imprévu, il retrouve le petit enfant perdu devant un monde qu'il ne comprend pas et qu'il ne peut pas maîtriser. Et dès que les choses s'organisent, eh bien, ça va mieux. Alors, je vous cite deux livres, parce que j'ai obtenu d'Odile Jacob qu'elle fasse comme, peut-être pas une collection, mais enfin, je veux un témoignage de patients qui n'ont pas été des patients que j'ai soignés, mais qui montrent leur évolution. Il y en a un, c'est Paul Otonka, c'est un pseudonyme, dialogue avec moi-même, un schizophrène témoigne. Je n'ai jamais vu un livre sur la schizophrénie comme cela. Parce qu'il a dit « je suis schizophrène », ça veut dire que je suis divisé, eh bien je pars à rencontre de moi-même. Alors c'est moi-même, comme un journaliste, qui interroge moi, le psychotique. Et là, toute sa vie repasse. Tout le lien avec les médecins, avec ce qu'on sent par moment, d'émergence émotionnelle qui pourrait quelquefois l'emporter vers les fonds plus sombres qu'il a au fond de lui. Et un autre, celui-là, est paru il y a près de 2 ans. Et l'autre, le dernier, c'est Agathe Le Noël. Elle publie sous son nom, une jeune femme, avec ce beau titre qu'elle a trouvé, « Qui suis-je quand je ne suis pas moi ?» Une bipolaire témoigne. Et pendant ces épisodes en effet maniaque où elle délire, eh bien, voilà, elle commence sous régulateur de l'humeur, tout ça a disparu. Mais elle sent, elle peut le dire à la fin, que par moment, hop, ça reprendrait comme ça. Il faut que ce soit son entourage, son mari, ou ça qui dit, t'énerve pas là-dessus. Mais c'est autre chose que lui dire, c'est un trouble psychique, lui dire, attends, tu as là actuellement une dérégulation de ton humeur. Et le troisième qui va sortir en mai, qui est une fille dont je me suis en partie occupée, mais qui était surtout soignée par mon collègue, qu'on a suivi dans le service, qui a commencé une anorexie à 16 ans, qui faisait une prépa en hippocagne, très brillante, un talent d'écriture, d'ailleurs elle a une écriture merveilleuse, et qui a eu au total une anorexie grave, plus des scarifications considérables, où elle s'est scarifiée tout le corps, décollée les deux rétines à coups de poing sur les yeux, qui a eu 8 années d'hospitalisation sur 15 ans de suivi, et qui maintenant n'a plus d'anorexie. Et dans une attitude d'ouverture au monde, elle travaille à la ZEU, elle va publier sous son nom, ce qui à mon avis est un courage, dont je ne suis pas sûr qu'elle ne le paye pas un peu cher du côté du regard des collègues, malheureusement, parce que justement, on dit « ah là là là, quand même, quand il y a des troubles ». Et alors, justement, elle avait simplement des émotions qui ont absolument débordé, et ce qu'on voit, c'est que c'est la même force et ça qui l'a poussée à s'abîmer. Et on le sentait quand elle se tapait à ce point-là sur elle, on sentait que quoi ? Il y avait du vivant derrière cette force destructrice. Il y a toujours du vivant derrière la destructivité, mais pour qu'on se vivant, on ne s'en sert pas pour s'abîmer. Mais il faut qu'on ait confiance, tout simplement. Alors ça rejoint en effet tout ce qu'on disait ce matin sur envoyer un coup de fil, on existe, c'est-à-dire tu existes pour quelqu'un. Personne ne peut exister s'il ne se sent pas important pour quelqu'un, et surtout ceux qui disent le contraire, parce qu'ils se servent justement du fait que dis-moi je n'ai aucune valeur, hein, ce qui fait que nous sommes en effet des dérégulateurs des instincts, mais des êtres de valeur. On a tous besoin d'un regard pour nous conforter sur la valeur que nous avons. Et nous sommes, nous, des générateurs de valeurs, c'est-à-dire nous avons la capacité de les générer. Et je dirais à ce titre-là, nous sommes des générateurs d'ambiance. Et cette génération d'ambiance, ça rejoint ce qu'on disait ce matin sur les ambiances pourries aussi bien familiales, mais au niveau du travail, il faudrait savoir que ce n'est pas une fatalité. C'est souvent à partir de troubles du caractère et de choses minables, mesquines, où on va se faire tout un monde et se pourrir la vie. Et c'est ça qu'on voit, mais il faut attendre 75 ans pour le voir, qu'on s'en poisonne la vie sur des choses qui, les 3/4 du temps, n'en valent pas la peine. Alors, il faut une catastrophe. Oui, alors là aussi, il faut une catastrophe pour qu'à ce moment-là, on sente la valeur de la vie, d'être ensemble, de partager, de s'embrasser, de se serrer. Mais il faut une catastrophe. Bon, alors c'est quand même terrible qu'il faille en arriver là. Chez des gens dits conscients, qui sont capables de choisir et qui ne peuvent être bien ensemble et se parler qu'à condition qu'il y ait une menace à l'extérieur, parce que celle-ci leur donne le sentiment d'être actif, de ne pas se fondre avec les autres, de ne pas se confondre. On a trouvé un ennemi commun et on n'est jamais aussi bien. Mais de quel prix on le paye ?
Merci, professeur.